L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.
Ah mais attends, on est le premier jeudi du mois.
Ah oui, c'est l'actuel.
L'émission féministe pour il, elle et elle.
This time, we will do it by ourselves.
Les luttes sont toujours des luttes simultanées.
L'acte de procréation est un acte de liberté.
Non una, dimeno, pas une de moins.
Que l'aborto sea legal.
Ah, al patriarca.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de l'actuel. Je suis aujourd'hui avec Estelle. Salut Estelle.
Bonjour Sophia.
Et je suis avec également Nicolas et Clara à la technique. Coucou à vous deux.
Coucou.
Alors cette émission pour ce mois-ci n'est pas en direct, mais on vous a quand même préparé une série de sujets, de chroniques et d'interviews, et bien sûr des musiques aussi, sur des sujets féministes variés. Alors en fin d'émission, vous allez retrouver une chronique de Cindy sur l'infertilité par le biais de la bande dessinée Un bébé si je peux. Juste avant, on entendra Nora Boitsouni, autrice de plusieurs livres sur le lien entre alimentation, genre et classe. Je l'ai interrogée notamment sur féminisme, quand le sexisme passe à table. Estelle, toi tu vas nous présenter une lecture et une petite chronique sur le syndrome méditerranéen. On va en savoir plus juste après la revue de presse avec Nicole et moi-même. Et c'est parti.
Radio Larzac vous présente la revue de presse, des pages aux voix.
Alors, c'est Nicole qui nous a enregistré une chronique sur la liste des médicaments essentiels que l'État est censé rendre disponibles toujours, même en cas de pénurie. Vous allez peut-être vous en douter, cette liste favorise les hommes et pas les femmes. Et Nicole, donc, nous en dit plus.
Les pénuries de médicaments sont une plaie depuis plus de 20 ans. À quel titre nous concernent-elles davantage, nous, les femmes ? D'abord, le contexte. Les firmes pharmaceutiques sont censées avoir une obligation de mise à disposition des médicaments ayant une autorisation de mise sur le marché, AMM. Faute de pouvoir faire respecter cette obligation, les pouvoirs publics essaient de pallier tant bien que mal ces pénuries. Une liste de médicaments essentiels devant être toujours disponible a été établie en 2023. Elle est contestée à plus d'un titre, incohérence, oubli, excès, manque de transparence dans la constitution des groupes d'experts, pas de déclaration accessible de leurs liens d'intérêt, choix des médicaments, nous y voilà. Parmi les 450 médicaments essentiels, on trouve 3 médicaments servant à pallier les insuffisances d'érection, mais aucune pilule contraceptive, sauf contraception d'urgence, aucun stérilet. Qui décide que c'est plus important d'avoir une érection que d'éviter une grossesse non désirée ? C'est une rubrique du blog Anti-Knock du docteur Jean Dubovetsky qui m'a alertée. Il est médecin généraliste à Albi, membre de l'équipe de la revue Prescrire, revue critique à l'intention des médecins, et membre, comme moi-même, de l'association Formindep qui milite pour l'indépendance dans la formation des soignants et au-delà. Ma conclusion, plus d'érection et moins de contraception, nous sommes prêts pour le réarmement démographique souhaité par Macron. Je remercie le docteur Dubovetsky pour sa perspicacité et je salue depuis la Montagne Noire les participantes et auditrices de l'actuel. À bientôt.
Voilà, merci à Nicole pour ce billet. À cette actualité dont elle nous parle, je voulais en ajouter une autre. Ça n'a pas vraiment à voir avec les médicaments, mais plutôt avec la liberté et l'antifascisme. En Italie, ce 25 avril a marqué le 79e anniversaire de la libération du nazifascisme, qui a été l'œuvre des partisans et des partisanes qui ont eu le courage de croire en la liberté, la démocratie et la paix. Mais aujourd'hui, se dire antifasciste dans notre Europe qui se dit démocratique pose pourtant encore souci et peut nous coûter jusqu'à l'emprisonnement. C'est ce qui s'est passé à Ilaria Salis, une militante et enseignante antifasciste italienne qui est détenue dans une prison de haute sécurité à Budapest depuis le 11 février 2023. À cette date, elle a participé à une manifestation contre un rassemblement de néo-nazis à Budapest. Donc, chaque année, des néo-nazis et des militants d'extrême droite venus de toute l'Europe se réunissent dans la capitale hongroise pour commémorer le Tag der Ehre, le jour de l'honneur, un hommage à un bataillon nazi qui a tenté d'empêcher le siège de Budapest par l'armée rouge en 1945. Ce rassemblement est interdit, mais toléré par les autorités hongroises. Ilaria Salis est accusée d'avoir agressé deux militants néo-nazis pendant des affrontements et d'appartenir à un collectif violent d'extrême gauche. Ce sont des accuses qu'elle conteste. Et pourtant, ça fait plus d'un an qu'elle est détenue dans des conditions inhumaines dans cette prison de Budapest. Dans une lettre adressée à ses avocats, elle parle de cafards et de rats dans sa cellule, de n'avoir reçu aucun produit d'hygiène ni la possibilité de se laver pendant plusieurs semaines. Elle n'a même pas eu le droit à des tampons ou des serviettes hygiéniques quand elle a eu ses règles. Les images de son audience où elle est arrivée au tribunal menottée par les mains et les pieds et attachée à une laisse en cuir ont particulièrement choqué et suscité l'indignation en Italie. Ilaria Salis risque 24 ans d'emprisonnement. Ses avocats demandent l'assignation à résidence. Pour le moment, ça a été refusé. L'Alliance Verdi e Sinistra, donc l'Alliance de gauche et des Verts en Italie, a décidé un accord avec son père Roberto Salis de présenter Ilaria Salis aux élections européennes dans ses listes pour que, je les cite, on puisse mener un grand combat pour que l'Union européenne affirme les principes de l'état de droit dans chacun de ses États membres. Le gouvernement italien, quant à lui, ne fait aucun effort pour rapatrier Ilaria Salis ni pour demander sa libération. Le journal français La Croix soutient que, je cite, Giorgia Meloni, chef de file du parti des conservateurs et réformistes européens, ne veut pas se fâcher avec Viktor Orban à la veille des élections européennes alors qu'elle a besoin de son soutien. Le sort d'Ilaria, lui, attendra. Fin de citation. C'est un sombre cadre qui nous dit ô combien on a la mémoire courte en Italie si on pense que ces mêmes représentantes et représentants du gouvernement ont pu accéder à leur position de pouvoir grâce à la volonté et à l'effort démocratique mené par les antifascistes même à la sortie de la guerre. Cependant, ce qui me donne un peu d'espoir, c'est de lire cette même lettre dont je vous parlais, où Ilaria Salis écrit, je la cite, « Je me sens au fond d'un gouffre très profond, je me demande même s'il y a une voie d'issue, mais je trouve ma force dans ce monde qui reproduit les massacres du siècle dernier, dans la certitude profonde qui demeure dans mon cœur de savoir quel est le bon côté de l'histoire. » Voilà, on lui envoie évidemment tout notre soutien. Alors Estelle, c'est à toi maintenant. Tu as préparé donc un sujet sur les syndromes méditerranéens. Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on peut dire ?
Alors ça n'a rien à voir avec un syndrome comme on peut le définir dans le milieu médical, mais c'est plutôt un stéréotype raciste et on va voir qu'il peut être dangereux pour les patients et les patientes. Donc je voulais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen. Alors je suis une femme blanche, je ne suis donc pas directement concernée par ce stéréotype raciste, mais j'y ai été confrontée dans ma vie professionnelle. La première fois que j'ai entendu cette expression, c'était lors de mes études de sage-femme. Et d'abord, je n'ai pas bien compris ce que ça signifiait, mais ensuite j'en ai perçu tout le caractère discriminant et raciste. Et j'étais également révoltée par l'attitude de certains soignants envers des patientes qui ne parlaient pas français. Ils s'adressaient à elles en les infantilisant et en leur parlant comme si elles étaient dépourvues d'intelligence. Quelques années après, alors que j'étais déjà diplômée, j'ai été touchée de façon plus proche par les conséquences de ce préjugé raciste via l'expérience d'une amie qui est franco-marocaine et qui a grandi en France. 2 heures après son accouchement, dans un CHU, elle a fait un malaise important avec perte de connaissance. Et en fait, une soignante est venue et lui a juste demandé si elle était angoissée. Et en fait, il n'y a rien qui a été fait. 2 jours après, elle a fait de nouveau un malaise. Elle s'est évanouie alors qu'elle était en train de s'occuper de son bébé. Et là, en fait, c'est une externe. Mon amie me dit qu'elle était originaire des Dom-Tom, qui a réagi et qui est allée chercher une sage-femme pour faire un bilan. Et avant ça, mon ami ne s'est pas du tout senti écouté, ses symptômes ont été complètement minimisés. Et pourtant, ce qui est assez ironique, c'est qu'elle-même est infirmière. Donc j'imagine même pas les femmes qui ne sont pas dans le milieu médical. Finalement, après une prise de sang, il s'est avéré qu'elle était très anémiée et elle a même dû être transfusée. Alors, je voudrais là, maintenant, vous lire des extraits d'un article qui est paru dans Mediapart, qui date du 12 septembre 2022, rédigé par Besma Sikouk. Son titre, c'est « Accouchement, le syndrome méditerranéen s'invite en salle de naissance ». Alors, pour pas être trop longue, j'ai choisi de ne pas lire les témoignages des patientes. On peut trouver beaucoup de témoignages sur Internet ou dans des podcasts intéressants. Il y a une page Instagram qui s'appelle Syndrome méditerranéen où il relaye beaucoup, beaucoup de témoignages. Donc, par rapport à cet article de Mediapart, péridural, médicaments, échelle de douleur, ces dernières décennies, les outils pour mieux prendre en charge les souffrances de l'accouchement se sont développés. Mais parmi les freins aux avancées médicales, on recense le syndrome méditerranéen. Cette croyance remontant à la colonisation et aux premières vagues d'immigration en France pour les patientes et patients originaires de l'Afrique du Nord et à l'esclavage pour les personnes noires. Le sociologue et chercheur au CNRS Marc Loriol le définit comme une conviction des professionnels de santé selon laquelle les malades de culture méditerranéenne et surtout d'Afrique du Nord sont jugés plus angoissés, plaintifs, douillés, demandeurs. Dès lors, il convient de moins donner suite à leurs plaintes. Un préjugé qui peut conduire à des erreurs de prise en charge et notamment, qui est dénoncée par plusieurs patientes et sages-femmes qui ont été interrogées par Mediapart. Alors il y a eu plusieurs cas médiatiques qui ont mis un peu la lumière sur ce phénomène, comme celui de Naomi Musanga, morte en 2017 après avoir appelé le SAMU et qui ne l'a pas prise au sérieux. Il y a même la championne de tennis Serena Williams qui a raconté que durant son accouchement, ses plaintes ont été ignorées jusqu'à ce que le personnel soignant découvre des caillots de sang dans ses poumons, ce qui aurait pu lui être fatal. En 2020, Yolande Gabriel, une Martiniquaise, est décédée à l'âge de 65 ans après avoir attendu les secours plus d'une heure. Ses douleurs ont également été minimisées durant son appel au 15. Et je voudrais rajouter qu'il y a plus récemment l'histoire tragique de Aïcha, 13 ans. Des pompiers sont intervenus à son domicile après un malaise et estimant qu'elle simulait, ils sont repartis en la laissant semi-consciente. Elle était atteinte d'une hémorragie cérébrale et elle est décédée 12 jours plus tard à l'hôpital, en juillet 2023. Donc, ce syndrome méditerranéen a beau n'avoir aucun fondement scientifique, il s'agit pourtant d'une croyance qui est bien ancrée. Caroline Reniche, qui a travaillé durant 12 ans en tant que sage-femme dans l'hôpital public, affirme que comme plein d'autres formes de racisme médical institutionnalisé, il s'agit d'une réalité du quotidien. C'est dans un contexte de manque de personnel et de moyens à l'hôpital public que ce préjugé racial s'inscrit. Pour Caroline Reniche, l'urgence du travail quotidien à l'hôpital et les manques de moyens et de personnel n'arrangent rien, mais la façon de les gérer est biaisée par ce type de préjugés. S'il y a deux patientes au même stade, dit-elle, et qu'elles ont toutes les deux besoin d'une péridurale, consciemment ou inconsciemment, on va d'abord donner à la patiente blanche, même si elles sont à stade égal et à douleur égale. Et ça, dit-elle, c'est quelque chose que non seulement j'ai vu faire, mais que j'ai pratiqué aussi, parce qu'on apprend par mimétisme. Le sociologue Marc Loriol partage ce constat. Quand on n'a pas le temps, c'est plus simple de traiter les patients en fonction de stéréotypes. Ils aident à prendre des décisions plus rapidement, même si certaines de ces décisions vont être des erreurs dramatiques. D'autant plus que les soignants n'ont le plus souvent pas conscience de ce biais. C'est ce que explique Myriam Dergam, interne en médecine générale et doctorante en anthropologie médicale. Selon elle, les connaissances délivrées ne sont jamais remises en question par les étudiants au cours de leurs études, notamment parce qu'il y a un enseignement par la terreur et parce qu'il repose en grande partie sur des stages. Il se fait donc beaucoup par imitation des pairs et par pratique partagée. D'où, d'après elle, la persistance du syndrome méditerranéen dans l'inconscient des soignants. Un cliché qui est loin de disparaître, comme l'indique le sociologue, pas parce que les soignants seraient mal informés, mais parce qu'ils sont obligés de faire de plus en plus vite leur travail. Les difficultés immenses auxquelles fait face l'hôpital risquent bien de ralentir encore la déconstruction de ce préjugé. Alors pourquoi parler de ce sujet dans une émission féministe ? Les quelques exemples que j'ai évoqués concernent des femmes et des études montrent que les femmes y sont majoritairement confrontées. Il y a une étude qui est parue récemment en décembre 2023 réalisée auprès de 1500 soignants en France, en Suisse, en Belgique et à Monaco, et qui montre que les femmes noires sont les principales victimes de ce préjugé raciste et donc aussi sexiste. Cette étude a été menée par un urgentiste montpelliérain, Xavier Bobia, et qui montre que les cas des femmes noires et des personnes noires, enfin des femmes d'abord, et des personnes noires sont jugées moins graves par les soignants pour des symptômes identiques que ceux des hommes et des personnes blanches. Voilà. Donc il avait lancé cette étude pour montrer l'ampleur des préjugés racistes et sexistes. Il en avait déjà conscience, mais il pensait pas que ce serait de cette ampleur.
Voilà. Merci Estelle. Et tu disais tout à l'heure aussi que c'est quelque chose dont on commence tout juste à parler, c'est ça ? S'il n'y a pas eu beaucoup d'études auparavant ?
Non, c'est parce qu'il n'y a pas d'études en France, parce qu'il ne peut pas y avoir d'études raciales. Enfin, là, il y a cette étude quand même qui est sortie, mais on ne fait pas de statistiques ethniques en France, donc il y avait très peu d'études. Il y a par contre eu des études aux États-Unis. Et donc pour l'instant, ça reposait sur beaucoup de témoignages et d'enregistrements, mais cette étude vient quand même bien mettre... en relief ce problème.
Oui, en effet, il y a aussi d'autres ressources, comme tu as dit, des podcasts. On pourra les mettre aussi sur la page de cette émission. En tout cas, merci beaucoup.
Merci Sophie.
Et alors, c'est déjà le moment de la pause musicale et c'est Anaïs qui nous a suggéré un morceau de Kazé qui est un lien un peu avec ce dont tu parlais. Je vous cite quelques vers. On me croit criminel anormal, me voit dans les tunnels, me cherche dans le canal avec fusil et jumelles. Il me faut me faire mal là, le journal est formel, au signal viser la moelle, donner la mort intentionnelle. Voilà, c'est Libérer la bête de Kazé, tout de suite sur Radio Larzac.
Qui doit rejoindre le bétail. Mon nom est un détail et personne ne m'appelle. Qui aura ma gueule sera décoré d'une médaille. Deviendra un modèle, une idole pour la foule. Un symbole, le cow-boy qui a vaincu le cow-boy. Mis dans la corbeille, la queue et les oreilles. Cloué au portail, le trophée de la bataille. On me croit criminel, anormal. Me voit dans les tunnels, me cherche dans le canal. Avec fusil et jumelles, il faut me faire mal. Là, le journal est formel, au signal, viser la moelle. Donner la mort intentionnelle, rien n'est rationnel. La chasse est nationale, passionnelle. Prise en charge par des professionnels. Éliminer l'animal, qu'il soit mâle ou femelle. Salir sa gamelle avec sa pisse ou ses semelles. Et la bête, effacer sa tête. Essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne niez même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérez la bête, effacez sa tête. Essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne niez même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Et elle est sûre d'elle, hors d'elle, adore le bordel. Ses morsures sont mortelles et ses blessures morcelles. Et elle sort elle, le brutal avec son venin fatal. À coup survenir à elle, c'est périr d'une mort sale. Elle harcèle, dort seule, protège son épine dorsale. Et à elle seule, représente le mal universel. Pille toutes vos parcelles, vos portions, vos pincelles. Faites attention à celle que la cruauté ensorcelle. Scellez les arrières-salles, les nacelles, les passerelles. Les quartiers, les cartels, les écoles maternelles. Quelles sont les nouvelles, ces rituels éventuels? Où va-t-elle, où vit-elle? Ces va-et-vient habituels, ces questions sont vitales, essentielles, capitales. Son habitat naturel, ses réflexes sont mentales. Sa pensée bestiale, sa colère officielle. Vous la reconnaîtrez, son pelage est spécial. Et la bête, effacez sa tête. Essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne niez même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérez la bête, effacez sa tête. Essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne niez même pas les misères que vous curiosité tropicale à la verticale par les cervicales. Ils ont lynché la curiosité tropicale et sa fin fut sans appel et radicale, sans autopsie ni même avis médical. On la montre, on l'étale, sa mort est un régal. Et de porte en porte et d'escale en escale, on balance poubelle, insulte, matière fécale. La foule est immense, cruelle et inamicale. La charogne, le chacal finira dans un bocal. Mais au fond, quel est le mobile de cette cabale? Mais au fond, quels sont les motifs de ces coupelles? Mais au fond, pourquoi lui infliger toutes ces séquelles? Mais enfin, dites-moi pourquoi vous avez peur d'elle? La bête n'est qu'elle-même et n'a pas la tête du teckel. Libérez la bête, effacez sa tête. Essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne niez même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérez la bête, effacez sa tête. Essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne niez même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérez-la.
Nous sommes de retour dans l'actuel, c'était Libérer la bête de Kazé. Vous êtes toujours à l'écoute donc de l'émission féministe de Radio Larzac, je suis toujours avec Estelle. Et dans cette émission qui est un peu un mescladis de plein de sujets différents, je vous propose maintenant d'écouter Nora Boitsouni. Elle est autrice d'un livre que j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle Féminisme comme fin et inisme, quand le sexisme passe à table. Elle y décortique les stéréotypes et les biais sexistes associés à la nourriture, à partir des outils marketing jusqu'à l'anthropologie de la consommation de viande. Je l'ai interrogée par téléphone. Bonjour Nora Boitsouni.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, traductrice et autrice de plusieurs livres sur le lien entre alimentation, genre et classe, on pourrait dire. Le dernier en date s'intitule « Manger les riches, la lutte des classes passe par l'assiette », qui est paru aux éditions Nourriture Fou, Tourfu. Mais c'est plutôt sur le premier de vos livres sur ces thèmes que j'aimerais revenir aujourd'hui. C'est paru en 2017, toujours aux éditions Nourriture Fu, et ça s'appelle « Féminisme quand le sexisme passe à table ». Alors pour commencer, j'aimerais citer le début du livre. Vous écrivez « La nourriture sert à maintenir les femmes à la place qui leur a été assignée depuis des millénaires dans l'espace ou la société, alors qu'elles jouent plus que jamais un rôle crucial dans la survie de l'espèce humaine, son histoire et son développement. Par la nourriture qu'elles produisent, transforment, stockent ou consomment, elles sont toujours considérées comme inférieures aux hommes. » Alors pour commencer, comment vous vous êtes rendu compte de ce constat d'infériorité et qui vous a poussé à écrire ce livre ?
Alors je crois que ce constat, on le fait depuis qu'on est petite ou petit, hein. On voit bien en France et dans pas mal de pays du monde, à plus de 80% dans les ménages hétérosexuels, ce sont les femmes qui cuisinent au quotidien. Et quand on regarde qui sont les chefs de restaurants, on voit que ce sont les hommes. Quand on voit qui parle d'alimentation dans les médias, on voit bien que ce sont principalement des hommes. Quand on voit qui publie des livres de recettes, on a quand même pas mal de femmes. Quand on voit qui publie des livres de chefs, ce sont des hommes. Qui publie des essais ou des bouquins de recherche qui parlent d'alimentation, ce sont beaucoup d'hommes. En tout cas, on voit qu'il y a une différence de traitement, une différence d'activité, de tâches qui sont quand même liées au genre. Alors, c'est évidemment pas une question d'affinité, c'est une question de construction sociale, de stéréotypes, c'est une question de domination patriarcale, évidemment. Puis, on voit aussi, quand on commence à regarder de plus près les chiffres de l'agriculture, des exploitations, des propriétaires terriens, de qui dispose des machines, des intrants. On voit bien que les hommes sont favorisés à ce niveau-là. Les femmes sont des travailleuses précaires dans l'agriculture, des travailleuses saisonnières. Hein. Elles font le plus gros de ces équipes de saisonnières, donc de travailleuses précaires. Ce sont des femmes qui ont moins de propriétés hein, terriennes. Donc on voit bien qu'il y a aussi un biais de genre à ce niveau-là. Donc à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, j'avais envie de montrer ça. Et Nourriture Fut est venue me chercher en 2016 en me disant, voilà, on a une idée de livre, on voudrait parler de sexisme et d'alimentation et on aime bien ce que tu écris, est-ce que tu es d'accord ? Et en fait... Je me suis dit, ah bon, est-ce que j'ai vraiment beaucoup de choses à raconter là-dessus? Et puis j'ai commencé à ouvrir un document sur mon ordinateur et puis j'ai gratté des pages et des pages, justement à partir de tous ces constats qui finalement nous semblent assez presque naturels, presque normaux. On se dit, bon, bah, c'est comme ça pour des raisons, je ne sais pas, historiques. Et en fait, les raisons sont quand même éminemment culturelles.
Oui, en effet, il y a beaucoup de constats, de choses qui m'ont marqué dans ce livre et qui pourtant ne sont pas très surprenants. Par exemple, vous l'avez cité aussi dans Le Monde de la Haute Cuisine, plusieurs chefs et guides aussi comme Goemio tombent dans les clichés sexistes quand ils décrivent la cuisine des femmes comme délicate, sensible et simple, alors que celle des hommes serait marquée par une plus grande expertise. Et c'est pour cela aussi que, par exemple, il y a moins de chefs femmes dans la cuisine gastronomique.
Alors, les raisons pour lesquelles il y a moins de femmes dans la cuisine tout court, hein, on a les chiffres de la DARES, hein, donc du ministère du Travail, en cuisine, les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes. Hein, il y a même pas un tiers de femmes, j'ai même plus le chiffre en tête, mais je crois qu'on est à une vingtaine de pourcents seulement de chefs ou bien de cuisinières. Les raisons sont multiples. Hein, il faut se rappeler quand même que la cuisine professionnelle, quand le restaurant a été créé en France à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'est un métier qui a été interdit aux femmes, dans le sens où les femmes, elles étaient cuisinières dans les familles bourgeoises ou l'aristocratie, mais quand il a fallu monter un restaurant et que la cuisine s'est professionnalisée, c'est-à-dire qu'elle a été rémunérée dans l'espace public et non plus au sein des maisons privées, quand les premières académies ou écoles de cuisine ont été montées, notamment à Paris, eh bien, les hommes ont exclu les femmes de ces formations diplômantes ou de ces métiers. Elles ont été exclues des cuisines professionnelles. Donc, c'est pas déjà juste une question de volonté, en tout cas de la part des femmes, de ne pas faire ces métiers. Et puis, il y a évidemment des obstacles, qui sont des obstacles systémiques, hein, comme dans toute société où il y a une domination patriarcale et une domination raciste, notamment. Il y a aussi bien plein de femmes qui carrément abandonnent la cuisine, voyant que l'atmosphère en cuisine, elle n'a pas beaucoup changé. Elle n'est pas en train d'évoluer énormément. Moi, je le dis, hein, je travaille sur les violences en cuisine notamment. Et j'ai toujours des femmes qui me racontent des situations sordides, des agressions sexuelles, des viols, du harcèlement sexuel. Donc, des remarques quotidiennes, des attouchements quotidiens, des agressions très très fréquentes. Et donc, on n'a pas envie de rester là-dedans. Et on a évidemment aussi les biais médiatiques, hein, avec, comme je parle dans Féminisme, des journalistes culinaires qui vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez, qui vont aller tresser des lauriers à des hommes qui sont déjà très médiatisés. Moi, j'ai grandi avec, à la télé, Maïté, qui faisait à manger. Et aujourd'hui, quand on regarde la télévision, ce sont les hommes qui font à manger, très, très largement. Donc, il y a aussi cet espace médiatique qui a été complètement accaparé par des hommes qui font à manger, donc qui ont cette forme d'expertise qui est valorisée, valorisante et surtout qui est rémunératrice, qui est rémunérée, que ce soit dans Top Chef ou dans des émissions de télé pré-prime qui nous montrent comment apprendre à manger, comme Laurent Mariotte par exemple. On a donc aujourd'hui une espèce d'accaparement et de monopole, on va dire, de la cuisine par les hommes qui apprennent aux ménagères, aux femmes, à faire à manger. Et ça, c'est intéressant d'expliquer pourquoi, de remonter justement aux racines historiques et à pourquoi ces obstacles perdurent pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans les cuisines des restaurants notamment, ou aussi pour que les hommes prennent en charge la cuisine du quotidien. Parce que ce qui est intéressant à démontrer aussi avec le bouquin, c'est que, et je cite Bourdieu dans La domination masculine, même s'il n'a rien inventé, une activité, comme il écrit, qui est réputée féminine. Alors on pense à la cuisine, on peut penser aussi à la couture ou à la coiffure. Dès qu'elle est exercée par un homme, tout de suite elle est transcendée. Donc quand vous pensez à la couture, une couturière, bon, c'est une femme qui fait de la
qui
couture.
Qui fait des réparations, oui.
Voilà, et un couturier, en revanche, on pense au grand couturier. Une coiffeuse, c'est la femme, donc le métier est de vous coiffer, vous couper les cheveux. Un coiffeur, aujourd'hui, on a quand même des hommes qui ont des marques de shampoing, qui ont des salons, des franchises, etc. Donc, ces activités-là, dès qu'un homme les fait, tout de suite, il y a une forme d'expertise de savoir et surtout de rémunération qui arrive.
C'est intéressant aussi de voir comment ces biais et ces stéréotypes se traduisent justement dans la langue, comme vous l'avez dit. Et dans le livre, vous reveniez aussi sur encore d'autres stéréotypes. Et par exemple, vous citez l'instinct maternel, le fameux, qui devient un outil marketing pour gagner la confiance du consommateur en vendant une sorte de savoir-faire maternel pour certaines marques. Par exemple, on retrouve Bonne Maman, les confitures, les compotes maternes, les yaourts Maminova. Alors que les hommes, eux, ils sont pas anonymes dans les noms des marques. On trouve par exemple Capitaine Igloo, Uncle Ben, Giovanni Rana. Et donc ça contribue aussi à une invisibilisation des femmes. Et je voulais savoir en quoi ces outils marketing jouent sur notre perception de la nourriture et des produits qu'on achète.
Alors, ils jouent sur plusieurs tableaux. D'abord, comme vous le disiez, ils jouent sur une vision qui est essentialisante des femmes. C'est-à-dire que, comme vous le releviez, comme je l'écris dans le bouquin, les femmes de ces marques, ces égéries, elles sont complètement anonymes, donc elles n'ont pas de nom, elles n'ont qu'une fonction. Et leur fonction est une fonction reproductrice. Donc, ce sont des mères ou ce sont des grands-mères. Donc il y a d'abord associé à cette image d'une mère ou d'une grand-mère quelque chose de doux, de rassurant, d'inoffensif et de gratuit. C'est un travail, ce qu'on appelle le travail de reproduction sociale, donc celui d'élever les enfants, de nourrir le foyer, etc., de prendre soin. Donc il y a cette notion du care qui est quand même associée aux femmes, puisqu'aujourd'hui ce sont les femmes qui prennent en charge ce travail de façon largement majoritaire. Contrairement à des hommes experts, donc... Alors, Uncle Ben, c'est différent, mais Uncle Ben, il a un métier. Et puis, il est nommé, même si c'est l'oncle, c'est tonton. On a Jacques Vabre aussi. On a Captain Igloo. On a Ducrot, le chef. On a William Sorin. Donc, il y a des prénoms. Puis, ils ont des métiers. Ils sont pêcheurs, ils sont restaurateurs, ils sont explorateurs, ils sont cuisiniers, etc. Là, on n'a pas du tout quelque chose qui relève du care ou de quelque chose de rassurant, de doux, on a plutôt l'expertise, le savoir-faire, la technique. Donc des hommes qui ont des connaissances et qui mettent leurs connaissances au service des consommateurs, consommatrices pour des produits, je ne sais pas, bien cuisinés, bien sourcés, etc. Donc on a déjà une sorte de concurrence en termes de fonction et en termes de compétences. Et ces produits-là jouent donc ce marketing sur ce qu'on appellerait la pensée magique. La pensée magique, par exemple... C'est, quand on parle d'alimentation, notamment, ce qu'on peut en parler en termes d'anthropologie, de religion, etc. La pensée magique, par exemple, c'est quand vous achetez un smoothie qui s'appelle détox et que vous pensez que ça va détoxifier votre organisme, ou bien que vous buvez une tisane qui s'appelle nuit calme et vous pensez que ça va vous aider à vous endormir. Ça, c'est la pensée magique. Donc, la pensée magique, c'est penser que certains ingrédients ont des vertus, des pouvoirs actifs et qu'en les mangeant, les absorbant, vous allez absorber ces pouvoirs qui vont être dans votre corps et vous aider à dormir, être apaisé ou être énergisé. Et donc là, ces compétences-là, il y a une pensée magique qui les suit. Donc par exemple, on disait, quand on a un yaourt Maminova ou un café grand-mère, la pensée magique, c'est ce café ne peut pas me faire de mal, ce café est sélectionné avec soin par mamie, par une femme qui sait prendre soin des autres, donc elle ne me donnerait pas quelque chose de mauvais pour la santé. Donc on ne se méfie pas des marques, on ne se méfie pas assez des marques qui utilisent des égéries féminines sous des traits maternels ou de grand-mère. Parce qu'on se dit, ces marques-là, forcément, on leur fait confiance. De l'autre côté, on a des marques qui utilisent donc des égéries masculines qui sont nommées et qui ont un métier. Et de la même manière, alors la pensée magique, elle est différente. La pensée magique, elle va être plutôt, c'est du savoir-faire, c'est une expertise, c'est technique, c'est un professionnel... même s'il n'existe pas, c'est une égérie, c'est un professionnel qui l'utilise. Mais c'est vrai que la pensée magique concernant les marques qui utilisent des femmes, on pense aussi à Monique Ranou par exemple, en égérie, on a cette idée que c'est pas la peine de se méfier, il y a une femme derrière tout ça, donc je peux faire confiance et manger, boire ce produit les yeux fermés.
Et ça nous amène aussi à rejouer certains stéréotypes sur notre alimentation en tant que femme, par exemple, être amenée à manger plus léger, à manger moins.
Alors ça, j'en parle dans le deuxième livre qui s'appelle « Sexisme, en finir avec le mythe de la végé et du viande noire » qui est sorti en 2021. Avec ce bouquin, je me suis posé la question, est-ce que les femmes et les hommes en France mangent différemment? Alors, on a les stats, hein, on a les statistiques. C'est l'étude INCA3, une étude française hein, du ministère. Donc, on sait quelles sont les consommations individuelles des Français et Françaises, en tout cas des gens qui habitent sur le territoire dans l'Hexagone. Et on découvre évidemment que les femmes et les hommes mangent différemment. La vraie question, après le constat, c'est pourquoi? Et il y a plusieurs raisons qui font que les femmes et les hommes mangent différemment. Par exemple, les hommes mangent deux fois plus de viande rouge que les femmes. Les raisons sont culturelles, les raisons ne sont pas biologiques. D'une part parce que les goûts ne sont pas innés, donc les hommes ne naissent pas avec une préférence pour la viande rouge et les femmes pour les fruits, par exemple. C'est une construction sociale et culturelle. Et biologique aussi parce que les hommes n'ont absolument pas besoin de manger plus de viande que les femmes. Les hommes boivent trois fois plus d'alcool que les femmes, ils n'en ont pas besoin et ils n'ont pas un goût particulier pour ça. Et les hommes et les femmes mangent différemment puisque ça fait partie évidemment des stéréotypes de genre. La viande est éminemment symbolique et la symbolique c'est la virilité. Et les femmes mangent, par exemple, consomment plus d'aliments comme la soupe, comme les compotes. Elles vont manger, alors contrairement à ce qu'on peut croire d'ailleurs, les femmes vont manger moins sucré que les hommes vont manger plus des desserts, vont manger plus gras, plus sucré, plus salé que les femmes, et les femmes vont consommer plus de compléments alimentaires par exemple. Alors on sait pourquoi, hein, donc il y a cette construction culturelle qui fait aussi que bah, les femmes sont soumises à des injonctions de minceur beaucoup plus fortes que les hommes. Hein. La grossophobie, elle touche tout le monde, mais on le sait, c'est statistique. Plein d'études le montrent, la grossophobie, elle touche principalement les femmes. Une femme grosse va être davantage discriminée qu'un homme gros, sur plein de plans, hein, professionnels, amoureux, etc. Donc les femmes ont cette injonction-là, donc on a cette idée qu'une femme, même, imaginez, vous êtes à un premier rendez-vous avec quelqu'un, un homme et une femme, son premier rendez-vous, bah, la femme va se dire, peut-être que si je commande un gros steak avec des frites et de la mayo, ça va pas être assez féminin. Et peut-être que l'homme en face se dit, si je commande une salade composée végétarienne, elle va se dire que je suis pas un vrai bonhomme. Donc on a tous et toutes intégré des stéréotypes de genre. Ces stéréotypes se retrouvent dans les consommations, pour le meilleur et pour le pire. Et je dis pour le pire parce que le régime alimentaire des hommes, non seulement fait du mal à la planète, hein, on le sait, notamment la surconsommation de viande rouge, mais aussi fait du mal à la santé. Les hommes souffrent bien davantage de cancer colorectal que les femmes, souffrent bien davantage de diabète de type 2 et de maladies neurocardiovasculaires. Donc, c'est pas seulement une question de renverser les stéréotypes pour renverser les stéréotypes, c'est aussi une question de santé publique et d'environnement.
Oui, en effet, vous avez parlé de la consommation de viande rouge et vous y revenez un peu dans le premier livre. Et c'est un sujet d'ailleurs qui est revenu un peu au centre des débats politiques il y a quelque temps quand Sandrine Rousseau a déclaré qu'il faut, je la cite, « changer aussi de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité ». Et vous citez à ce propos aussi des outils marketing qui mobilisent cette association. Vous revenez aussi un peu aux origines de cette association. Et donc, vous pensez que le féminisme peut et doit se nourrir, pour rester un peu dans la même métaphore, de la cause animale et de l'antispécisme pour finalement lutter contre le patriarcat ?
Je dirais pas que c'est... Forcément, les féminismes, ce serait déjà une question de justice sociale au sens large. Dans le bouquin, je parle d'écoféminisme. C'est parce que j'avais envie de remettre cette notion qui a été, malgré le fait qu'elle est née en France, sous la plume de Françoise Daubonne, elle a été extrêmement développée plutôt en Angleterre, en Amérique du Nord. Je parle de l'écoféminisme du Nord, hein, puisque dans les Suds, ce qu'on appelle les Suds, l'écoféminisme, même s'il n'a pas été nommé ainsi, était extrêmement vivace avec des femmes concernées par des catastrophes naturelles, par des règlements climatiques, etc. Je pense que c'est pas forcément uniquement les féministes qui doivent s'en emparer, c'est tout le monde qui doit s'en emparer. Aujourd'hui, on a un vrai problème en France, c'est qu'on a, on fait face à des résistances d'une violence inouïe quand il s'agit de remettre en question nos pratiques et nos habitudes alimentaires. Pourquoi ? Pour plein de raisons, notamment parce qu'on a l'impression, et c'est complètement faux, que notre terroir, que nos pratiques alimentaires sont très anciennes. C'est complètement faux, il suffit de s'intéresser à l'histoire de l'alimentation pour le voir. Qu'on appelle le mythe gastronomique français, il y a le mot mythe, c'est pas pour rien. On n'a pas toujours mangé comme on mange aujourd'hui, on n'a pas toujours consommé autant de viande. À une époque, on consommait plus de légumineuses, par exemple. Donc, ce serait complètement faux aujourd'hui de croire que quand les recommandations officielles de l'OMS ou du PNS, le programme Nutrition Santé, dit qu'il faut, non seulement, comme je l'expliquais, pour la santé, mais aussi pour l'environnement, baisser la consommation de protéines animales, et qu'en face, on a des gens qui sont insultants, des gens réactionnaires, enfin la droite et l'extrême droite, se sont emparés de l'alimentation aussi pour l'instrumentaliser à des fins identitaires, mais au vrai sens aussi identitaire. La nourriture et l'alimentation, c'est éminemment intime et identitaire, dans le sens où c'est notre identité, c'est fondateur et constitutif de ça. Aujourd'hui, quand on a des gens qui disent les véganes, les végétariens, veulent nous empêcher de manger de la viande et du fromage, veulent faire en sorte que la France ne soit plus la France, c'est la fin de la civilisation, bon, des choses outrancières comme ça, ce sont des gens réactionnaires, hein, qui balancent ça, mais on le voit aussi à l'extrême gauche avec Fabien Roussel, hein, ou bien à droite et extrême droite. Donc c'est une forme de croyance en une espèce d'âge d'or fantasmé de la France, c'est ça, comme si la France avait été un jour monolithique en termes de pratiques culturelles et d'identité. La France, c'est plusieurs identités et un nombre de pratiques extrêmement variées, non seulement dans l'Hexagone, mais aussi dans tous les territoires, non seulement parce que les populations, il y a eu beaucoup de vagues de migration en France, et parce qu'on ne mange pas tous la même chose. Donc, il suffit de regarder comment on mange dans le nord de la France et dans le sud de la France pour voir qu'évidemment, il n'y a pas une pratique, il n'y a pas un goût français. Donc, cette instrumentalisation, elle est problématique quand il s'agit de changer les habitudes pour plein de raisons. On voit bien que, et on le sait, hein, dans les études qui sont faites, les hommes sont beaucoup plus réacs que les femmes en ce qui concerne les pratiques alimentaires, sont beaucoup moins curieux. Vraiment, c'est vraiment l'idée de on peut plus rien dire, on peut plus rien manger, on peut plus rien faire. Donc c'est une forme de réaction. On l'a vu avec MeToo, on le voit avec les vitesses limitées sur l'autoroute, on le voit avec l'interdiction de fumer dans les publics, on le voit avec la consommation d'alcool et la consommation de viande. C'est vraiment une forme de résistance qui résiste à toutes ces choses progressistes qui disent mais prenons soin les uns des autres, prenons soin de la nature aussi puisqu'on prend soin de nous. Donc sur les problématiques antispécistes véganes ou de végétaliser l'alimentation, moi j'en parle dans le premier livre aussi, avec la question un peu provoque, peut-on être féministe et manger de la viande ?
Manger un steak.
Voilà, évidemment, la réponse est oui, on peut être, mais je voulais m'intéresser à ce qui, moi, m'a frappée en préparant ce livre, qui était la lecture d'un livre culte de Carol J. Adams, qui s'appelle « La politique sexuelle de la viande », dans laquelle elle compare la manière dont les femmes sont traitées dans la société et la manière dont les animaux sont traités dans la société. Donc, c'était intéressant aussi de faire un parallèle entre l'exploitation de la nature, des animaux, et l'exploitation des femmes et des enfants également.
Oui, et ça revient aussi à une notion écoféministe, en effet. Alors, ce livre date de 2017. Est-ce qu'aujourd'hui, 7 ans plus tard, vous avez pu constater la même situation ? Est-ce que vous continuez de vous intéresser de ce sujet ? J'imagine que oui.
Oui, bien sûr. Malheureusement, ça n'a pas changé. Vous le rappeliez vous-même, hein, quand Sandrine Rousseau, il y a 2-3 ans, à l'université d'été des écolos, puisqu'on lui demandait, hein, la question à la réponse que vous avez citée, la question était comment faire pour consommer moins de viande, pour inciter les gens à consommer moins de viande, notamment les hommes, hein, puisque ce sont eux qui en consomment le plus. Elle a été attaquée de toutes parts, insultée, cyberharcelée, menacée. Et elle a cité mon livre en me disant « Mais attendez, vous croyez que je sors ça de mon chapeau ?» En fait, on le sait, en fait, que la viande est associée à la virilité et que c'est un totem viriliste, tout comme boire beaucoup, se droguer, prendre des risques, rouler vite, etc. On le sait, c'est pas pour rien que les hommes sont les principaux auteurs et victimes des accidents de la route fatale, en fait. C'est pas anodin, c'est pareil pour l'alcool. L'alcool, ce sont les hommes qui meurent majoritairement des conséquences de l'alcool. Donc, c'est pas du tout une idéologie ou une vue de l'esprit ou une accusation qui est faite comme ça n'importe comment. Aujourd'hui, on le voit encore. Fabien Roussel, quand il parle de « pour tous les Français, il faut une bonne viande, un bon fromage, un bon vin », il est complètement déconnecté. Les gens, ils veulent juste manger aujourd'hui, en fait. Donc, moi, je vois pas pour l'instant de différence. 7 ans plus tard, c'est toujours compliqué de balancer des faits. Les gens nous accusent d'idéologie, ils sont dans la leur, sauf que nous, on donne des faits, pas des sentiments, des expériences ou du vécu général. Donc aujourd'hui, quand Sandrine Rousseau se fait attaquer parce qu'elle donne une vérité sociologique et scientifique, on rappelle que la sociologie, c'est une science, hein, c'est pas de l'opinion. Eh bien non, je vois que rien n'a changé. Moi, je me suis fait attaquer avec elle au même moment, puisque mes travaux étaient cités pour appuyer ces dires. je me suis encore pris des menaces de viol, des menaces de mort, des insultes misogynes, racistes, etc. Donc, non, toujours pas. Et on le voit bien, hein, les identitaires utilisent aujourd'hui l'alimentation et le soi-disant terroir, hein, qui est une construction touristique et culturelle, hein, le terroir. Il n'y a pas de terroir, ça n'existe pas, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, on le voit bien, non, ça ne change pas. Au contraire, il y a vraiment une espèce de coalition des résistances, notamment masculinistes et racistes, qui prennent l'alimentation, qui instrumentalisent les aliments et les produits et les habitudes alimentaires pour exclure de plus en plus de gens.
Eh bien, merci beaucoup. Ce sont des sujets passionnants sur lesquels je pense qu'on pourrait discuter encore longtemps. En tout cas, je rappelle votre livre « Féminisme quand le sexisme passe à table » aux éditions Nourriture Fu et puis aussi les autres que vous avez cités. Et voilà, merci pour votre temps.
Merci beaucoup.
Alors, c'était Nora Boitsouni, autrice de « Féminisme quand le sexisme passe à table ». C'est une lecture que je vous conseille et que vous pouvez prolonger si ça vous intéresse avec « Stexisme », en finir avec « Le mythe de la VG et du vin d'art », toujours de Nora Boitsouni, et puis aussi avec « Manger les riches, la lutte des classes passe par l'assiette ». Alors, on arrive bientôt à la fin de cette émission déjà, mais avant de conclure, on a une dernière chronique qui nous a été envoyée par Cindy. Elle nous parle d'infertilité et de la bande dessinée Un bébé si je peux.
Chers auditeurices de l'actuel, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une BD, Un bébé si je peux, de Marie Dubois. C'est une BD qui parle d'un sujet qui est trop peu investi, à mon goût, par le féminisme, l'infertilité. Quelques chiffres et définitions pour commencer. L'infertilité, d'après l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est l'absence de grossesse après un an de rapport sexuel non protégé. À ne pas confondre avec la stérilité qui, elle, est l'impossibilité de concevoir un enfant. L'une comme l'autre peuvent être féminines, masculines ou les deux dans le cadre d'un couple hétéro. L'infertilité concerne environ un couple hétéro sur 6. Une des solutions envisagées pour les personnes concernées est l'AMP, l'aide médicale à la procréation. Aujourd'hui, en France, l'AMP est ouverte aux couples hétéros, aux couples de femmes, ainsi qu'aux femmes seules. Dans tous les cas, pour que la sécurité sociale prenne en charge l'AMP, la femme qui portera l'enfant doit avoir moins de 43 ans. Les personnes trans en sont exclues. L'AMP regroupe différentes techniques plus ou moins invasives, allant d'une stimulation ovarienne simple, entre guillemets, avec rapport sexuel programmé, à la FIV, fécondation in vitro. Il faut savoir que les chances de réussite sont assez faibles, environ 16% par insémination artificielle et 20% par FIV, contre 25% de chances de concevoir par cycle menstruel pour des personnes qui ne sont pas considérées comme infertiles. On estime qu'environ un enfant sur 30 est né d'une AMP. Mais revenons à notre BD. Un bébé si je peux. C'est une BD qui m'a été recommandée par Carole, ancienne salariée du planning familial. Merci Carole si tu nous écoutes. Elle raconte l'histoire de Marie et de son amoureux qui, après un an et demi d'essai, n'arrive pas à concevoir un bébé tout seul. S'enchaîne alors pour eux la joie d'examens médicaux afin de déterminer les causes de l'infertilité. Prise de sang, hystérosalpingographie, c'est un des examens les plus agréables du monde, c'est une radio où, en position gynécologique, un liquide de contraste iodé est injecté dans l'utérus via le vagin afin de voir si les trompes sont perméables ou pas. Des échographies pelviennes et des spermogrammes, etc. À cette occasion, Marie apprend qu'elle souffre de SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, une pathologie qui touche une personne menstruée sur 10 et qui est la première cause d'infertilité dite féminine. On suit ensuite le couple dans leur parcours de combattant, leurs différentes tentatives d'insémination artificielle et de FIV. Je ne veux pas vous spoiler la fin de l'histoire, donc je ne vous dis pas si oui ou non, au bout d'un moment, ça marche. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette BD, c'est qu'elle aborde le sujet de l'infertilité avec beaucoup d'humour. Et on en a grand besoin quand on est concerné. La BD est franchement drôle, mais aussi très émouvante et touchante. J'ai eu plusieurs fois la larme aux yeux. Bon ok, j'ai la larme facile. Elle est l'occasion, à travers cette thématique de l'infertilité, d'aborder d'autres sujets qui touchent à la santé sexuelle des femmes et aux discriminations rencontrées par celles-ci. L'endométriose, les violences obstétricales et gynécologiques, les difficultés d'articulation entre vie professionnelle et vie familiale, etc. C'est un des aspects que j'ai beaucoup aimé. Cela replace l'infertilité et le désir d'enfant dans un espace sociétal imbriqué. Il n'est pas déconnecté de tout. J'apprécie tout particulièrement les bulles où l'autrice démonte les préjugés auxquels font face les personnes souffrant d'infertilité. Les fameux « c'est dans la tête » ou encore « tu penses trop ». Arrête d'y penser, ça viendra tout seul. Et enfin, la cousine de Josette essayait depuis longtemps, et ils ont adopté, et là, bam, elle est tombée enceinte. Toutes ces histoires ou réflexions que les couples concernés ont entendues de la part de personnes bienveillantes, même à la droite, ou peu sensibilisées à la question. Parce que non, l'infertilité, on n'en parle pas suffisamment. Marie Dubois explique, chiffre à l'appui, que la fameuse histoire de la cousine de Josette qui tombe enceinte au moment d'adopter concerne en fait seulement 3% des couples infertiles ayant adopté. Donc, 97% pour qui la grossesse miracle ne vient pas. La BD est aussi l'occasion d'alerter sur la baisse mondiale de la fertilité. Et oui, nous sommes dans une période où la biodiversité est menacée, et en tant qu'humains et humaines, on a parfois tendance à oublier qu'on fait partie de cette biodiversité. Par exemple, la qualité et le nombre de spermatozoïdes par éjaculat a diminué de moitié en 40 ans. Pour de nombreux scientifiques, les responsables sont la pollution et aussi les perturbateurs endocriniens qui se retrouvent dans de nombreux produits du quotidien. Lessives, crèmes, dentifrices, produits de beauté, mais également certains aliments, plastiques, tissus, etc. L'OMS considère d'ailleurs les perturbateurs endocriniens comme une menace pour la fertilité et la santé. Donc, si on veut œuvrer en faveur du fameux réarmement démographique, peut-être qu'il faut, avant tout, commencer par revoir nos modes de consommation et renverser le capitalisme. Mais là, je crois que je m'égare. Je pense que cette BD est une super ressource à mettre entre toutes les mains, que l'on soit concerné par l'infertilité, car cela fait du bien de lire son vécu mis en images et en mots, mais aussi et peut-être surtout si on n'est pas concerné, car cela permet de rendre moins tabou un sujet de société peu abordé et peut-être de développer l'empathie et mieux comprendre ce que vivent les personnes concernées.
C'était la chronique de Cindy sur la bande dessinée Un bébé, si je peux, merci à elle. Et comme vous l'entendez, c'est déjà la fin de cette émission, l'actuelle émission féministe de Radio Larzac avec le planning familial de Millau. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin. Merci à Nicole et Cindy qui nous ont envoyé leur chronique. Merci à toi Estelle.
Merci Sophia.
Merci à Anaïs et Meggy pour la musique et à Nicolas et Clara à la technique. Et merci aussi à Noura Boatsouni pour son interview. Et surtout, merci à vous tous, chers auditeurs, chères auditrices, pour nous avoir écoutés. Alors, l'actuel revient le mois prochain avec un ou des nouveaux sujets. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion vendredi à 19h et un podcast sur notre site radiolarzac.org, comme toutes les autres d'ailleurs. On vous laisse maintenant en musique avec Clara Issé, le morceau Douce qui a été choisi par Meggy. Et d'ici là, voilà, portez-vous bien et à très bientôt.
Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage. Je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise. Et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. La tendresse est mon guide, mais elle opère en terre aride. Ceux qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses candides. Si la mesure nous fatigue, à se sauver on est rapide. Nos chevaux ont les débris.